bienvenue au 33e épisode de Litteramour. Le jour, on fait des excursions, mais la nuit, on voyage. Notez l'écrivaine et peintre finlandaise Tove Jansson. Et Milay Hayet est d'accord avec elle. Dans son long essai sur ses voyages en train de nuit, elle parle de sa passion pour les voyages nocturnes et de l'exploration des lieux où elle est obligée de changer de train. Les centres-villes et les quartiers historiques l'attirent, même que les gares, car elles sont, selon Hayet, les seuls espaces publics couverts qui restent ouverts 24 heures sur 24, pour tous ceux qui ont besoin d'un peu de lumière et de compagnie, pour ceux qui font les poubelles et qui cherchent un coin sec pour s'en aller. Milay Hayet est née à Dallas, au Texas. Elle a grandi près de la frontière suisse. Elle a fait des études aux États-Unis et à Paris avant de s'installer à Berlin. Dans son livre « Nachtzugtage », elle décrit comment le voyage en train accélère les processus intérieurs, comment il fait surgir les paysages inconnus et les fables étranges de nos histoires intérieures. J'ai demandé à Milay Hayet pourquoi elle aime tant les voyages en train de nuit, car elle arrive souvent en retard à son lieu de destination et presque toujours par détour.
Also wenn ich einen Überbegriff benennen müsste, wäre das die Dehnung der Zeit und des Raums, die auf solchen Reisen geschieht.
Si je devais donner un terme générique, ce serait l'étirement du temps et de l'espace qui se produit lors de tels voyages. Si l'on compare le voyage en train à l'aviation, le monde s'agrandit quand on prend le train. Il y a tellement de choses à vivre. Les paysages changent et on rencontre des gens dans le train. J'aime aussi les lieux de correspondance que je n'ai pas choisis. Ils se trouvent par hasard entre moi et ma destination. En fait, je n'ai rien à y faire. Ce sont alors des cadeaux inattendus. Parfois, j'organise mon voyage de telle sorte que je passe toute la nuit dans le train et la journée dans un lieu de correspondance. La nuit, je remonte dans le train et je continue ma route.
Et ce sont là des chaînes algorithmiques qui s'effondrent vraiment au moment où un train arrive en retard.
C'est donc lié au manque d'interconnexion de ces systèmes ferroviaires européens, malheureusement. Cela signifie que l'on réserve généralement une place ou un lit dans un pays et que l'on réserve séparément l'étape suivante. Il n'y a donc aucune garantie pour la suite du voyage si quelque chose se passe mal. C'est pourquoi il faut prévoir une marge importante. Les trains de nuit sont plus souvent en retard que les trains de jour. Je ne peux pas l'expliquer, mais c'est comme ça. Il est bon d'avoir un jour entre les étapes. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible. Je me suis aussi souvent retrouvée dans des situations où j'ai raté ma correspondance et où j'ai dû trouver quelque chose.
Ich bin auch oft in Situationen gekommen, wo ich den Anschluss verpasst habe und dann mir irgendwas überlegen musste.
In Ihren Reise-Essays flechten Sie sehr geschmeidig literarische Stimmen ein und vous avez intégré doucement des voix littéraires dans votre essai. En passant, vous nous rappelez, en citant Agatha Christie, qu'il fut un temps où les passagers prenaient tout naturellement le train d'Alep à Paris, ou comme l'écrivain Paul Theroux dans les années 70, qu'il voyageait de Londres au Japon en passant par l'Afghanistan, le Pakistan, la Birmanie et le Vietnam, et au retour, il traversait l'Union soviétique. Quel a été votre voyage le plus long et le plus compliqué? Milay Hayet, war Ihre längste komplizierte Reise?
Also die längste und komplizierteste Reise war im letzten Sommer nach Tiflis.
Le voyage le plus long et le plus compliqué a été celui de l'été dernier à Tbilissi. En fait, j'avais initialement prévu d'aller à Moscou. Tous les voyages dont je parle dans le livre sont des voyages que j'ai faits. Mais lors du dernier voyage à Moscou, Poutine m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai alors réfléchi à ce qu'est une destination à l'Est que je ne connais pas. Un de mes amis vit à Tbilissi. C'est pourquoi j'ai pensé à Tbilissi. Le chemin le plus direct aurait été de passer par la Bulgarie, puis par la mer Noire. Mais à cause de la guerre, je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Alors je suis passée par la Turquie. Je suis montée à Berlin. Les étapes suivantes étaient Leipzig, Vienne, Budapest, Bucarest, Istanbul, Ankara. À Kars, J'ai dû prendre le bus, car il n'y a pas de liaison ferroviaire entre la Turquie et la Géorgie. J'ai donc pris le bus jusqu'à la frontière géorgienne, puis un taxi collectif jusqu'à Batoumi. Et à Batoumi, j'ai repris le train pour Tbilissi. Cela faisait 6 jours à l'aller et 6 jours au retour.
Dann in Batumi wieder den Zug nach Tiflis. Das waren 6 Tage hin und dann nochmal 6 Tage zurück.
In Tiflis sind Sie dann à Tbilissi, vous étiez en quelque sorte confronté à la guerre, puisqu'il y a environ 100 000 Russes qui s'y ont installés pour quelque temps et peut-être pour toujours. Quelle impression vous a laissé la ville de Tbilissi?
Ja, also das hat sehr die Zeit dort geprägt. Das war mein erstes Mal in Tiflis, mein erstes Mal in Georgien. Ich hatte also keinen Vergleich, aber mir wurde von den Einheimischen erzählt, dass Tiflis extrem überfüllt war und
les locaux m'ont dit que Tbilissi était extrêmement surpeuplé, que les loyers avaient augmenté et que beaucoup de choses avaient changé grâce à la présence de ces exilés. Toute la ville était couverte de graffitis anti-russes. C'était frappant. Souvent, ils étaient en anglais. J'ai entendu dire que d'une part, beaucoup d'exilés ont apporté de l'argent dans la ville. D'autre part, que ce sont des opportunistes qui n'ont pas vraiment d'opinion politique forte et qu'ils n'attendent simplement que la fin de la guerre. Ils ont un peu le sentiment que la Géorgie leur appartient encore d'une certaine manière. Et on leur a reproché de ne pas avoir fait l'effort de parler géorgien et de ne même pas parler anglais, mais simplement russe. J'ai donc perçu cette tension. Dans les cafés et les bars, il y avait parfois des papiers sur lesquels étaient écrites des déclarations en russe que les clients devaient signer. Pas littéralement signer, mais ils devaient les approuver pour pouvoir entrer. Par exemple, « Poutine est un criminel de guerre » ou « La Russie occupe actuellement 30% du territoire géorgien ». Les tensions étaient donc palpables.
Also, die Spannung waren auf jeden Fall zu spüren.
Berührt hat mich Ihre Schilderung einer Fahrt durch Anatolien. Votre description d'un voyage à travers des paysages de montagnes déserts, enneigés et glacés en Anatolie m'a très touchée. L'œil distingue ici et là une habitation et des traces de vie isolées. Et puis, le cuisinier du wagon-restaurant a commandé des repas pour les voyageurs étrangers à la gare d'Erzurum. Ce sont les spécialités de la ville. Ces moments, je suppose, font partie d'une mémoire très précieuse.
Das sind besonders kostbare Momente auch. Die bleiben, oder?
Ja, genau. Also, das ist auch das, was so richtig Freude macht, wenn man sich ausliefert, sozusagen, diesen langen Strecken.
C'est aussi ce qui fait vraiment plaisir quand on se livre, pour ainsi dire, à ces longs trajets. Il se passe constamment des choses auxquelles on ne s'attendait pas. D'une part, c'est bien sûr lié à la circulation des trains, que l'on ne peut pas toujours calculer, mais aussi aux rencontres avec d'autres façons de vivre. Après avoir passé toute la journée ensemble dans le train, le serveur a bien sûr remarqué qui était turc et qui ne l'était pas. Il nous a abordés et nous a demandé si nous aimions manger des keftes. Et il a commandé ça pour nous. Son ami s'est approché de la fenêtre du train et a fait entrer le repas. J'ai essayé d'imaginer ce que cela donnerait si un employé de la Deutsche Bahn demandait à ses clients étrangers « Aimez-vous les boudins blancs ?» Et à Munich, quelqu'un nous apporte des boudins blancs à la fenêtre. Je ne pouvais pas l'imaginer. C'est ce qui est bien quand on est en voyage. On voit comment les autres vivent et aussi comment on vit soi-même. On s'en rend compte par les choses qui nous surprennent. Et cela permet d'avoir une autre perspective sur ce qui va de soi.
Ja, auch auf das Zusammensein mit Kindern zum Beispiel. Sie beschreiben ein Sechserabteil mit... Vous racontez un voyage de nuit dans un compartiment étroit. Il y a Fatma, Hatice et leurs enfants.
Kinder in den Schlaf gebracht werden zum Beispiel.
Genau, das war sehr schön. Die kannten sich nicht, diese beiden Frauen, aber...
Les femmes ne se connaissaient pas. Mais nous étions comme une petite famille. Nous avons partagé nos repas, nous avons dansé ensemble. En Turquie, les enfants ne sont pas comptés dans le train. Ils dorment dans les lits avec leur mère. Alors il y a souvent beaucoup de monde dans ces compartiments. Il y avait 3 enfants et 3 femmes dans un compartiment pour 4 personnes. C'était serré, mais je n'étais pas mal à l'aise. Je me suis allongée, j'ai lu un livre, et puis l'une des mères a commencé à raconter une histoire. Les enfants étaient collés à ses lèvres, et moi aussi, même si je ne comprends pas le turc. Et c'était vraiment un très beau moment d'assister à ce conte du soir. Ensuite, Les enfants ont fait leur prière. Puis nous nous sommes tous endormis.
Sehr Nachtgeschichte beiwohnen zu dürfen. Und dann haben die Kinder ihre Gebete gesagt und dann haben wir alle geschlafen.
Sie haben Ihren Reise-Essay in 13 Kapitel gegliedert. Vous avez divisé votre essai en 13 chapitres. Il s'appelle Sommeil, Voyeur, Improvisé, Enfant, Frontière, etc. L'un a pour titre le mot fenêtre. Autrefois, on pouvait encore relever les fenêtres des trains. Aujourd'hui, les paysages défilent son bruit derrière les fenêtres panoramiques. Mais ce n'est peut-être pas grave, puisque vous écrivez que parfois, on ne voit de toute façon défiler que ses propres pensées quand on regarde par la fenêtre de train. Le fait de voyager lentement en train accélère-t-il de manière certaine les processus intérieur.
Also, es ist auf jeden Fall so, dass Züge jetzt verkapselter sind, als sie das vor 100 Jahren waren. Aber dass das dadurch entsteht, ein interessanter Bezug zum Außen und zum Innen, also finde ich. Also zum einen hat man dann zu der Landschaft, die da vorbeirauscht, eben nur einen visuellen Bezug. Also man hört nichts, man hört den Zug.
En tout cas, les trains sont plus encapsulés qu'ils ne l'étaient il y a 100 ans. Mais cela crée une relation intéressante entre l'extérieur et l'intérieur, je trouve. D'une part, on n'a qu'une relation visuelle avec le paysage qui défile. Et cela signifie que l'on est entièrement focalisé sur le visuel. Ensuite, il y a quelque chose comme un cinéma muet devant les fenêtres du train. Et cela a quelque chose de tout à fait particulier et peut aussi avoir quelque chose de méditatif si on s'y laisse prendre. Ou bien, on s'assoit simplement et on observe ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve qu'il se crée là aussi dans le train une sorte de calme intérieur très particulier. Je décris dans un chapitre comment j'ai décidé de me séparer de mon compagnon à New York. J'ai simplement pu laisser couler les pensées et les sentiments dans ce calme. Et j'ai pris une décision qui aurait été différente dans la vie quotidienne.
Und ja, also ich beschreibe in einem Kapitel, wie ich mich zum Beispiel in so einer Situation zu einer Trennung durchgerungen habe, weil ich einfach die Gedanken und die Gefühle habe fließen lassen können in dieser Ruhe und zu einer Entscheidung gekommen bin, auf einer Art, die im Alltag anders gewesen wäre.
Sie machen auch die Beobachtung, dass Menschen... Comment se fait-il que les gens oublient facilement que le train est un espace public et que tout le monde peut observer et entendre leur théâtre? Wie kommt das eigentlich?
Ja, das ist auch interessant.
Oui, c'est aussi intéressant. Si je compare cela à nouveau avec le voyage en avion. Dans l'avion, on est tellement à l'étroit. Et généralement, on ne reste pas aussi longtemps dans l'avion que pendant les longs voyages en train. On ne se détend pas autant en avion. Mais dans le train, quand on voyage avec un groupe, une famille ou autre, je remarque que les gens se construisent une sphère privée, où ils font semblant d'être dans une sphère privée, et sont souvent si passionnants qu'ils ne pensent tout simplement pas qu'ils peuvent être observés par tous. Et c'est là que j'ai toujours le plaisir d'observer les gens. On peut aussi le faire dans le métro ou le bus. Ce sont des petits bouts. Mais dans le train, ce sont des pièces de théâtre entières, parce qu'il y a cette durée. Et quand on partage un compartiment avec des inconnus, c'est aussi une expérience inhabituelle. Là, les gens se mettent à nu, au sens littéral du terme. Et puis, quand on voyage en famille avec les enfants ou autres, on est dans l'intimité avec d'autres personnes. Et on peut vivre beaucoup de choses.
In der Privatsphäre mit anderen Menschen zusammen und da kann man viel erleben.
Wenn man Grenzen überquert, sieht das andere Land. Lorsque l'on traverse des frontières, l'autre pays ne semble pas si étranger au départ. Vous dites que vous avez vécu les pays, les villes, les régions comme un continuum, comme une masse terrestre européenne. Mais où les différences se font-elles sentir? Die Unterschiede sich dann doch bemerkbar.
Also ich finde dieses Continuum finde ich auch sehr wertvoll am langen Zugreisen.
Je trouve aussi ce continuum très précieux dans les longs voyages en train. Lorsque je prends l'avion à Berlin et que j'atterris ensuite à Thessalonique, je ne ressens pas l'espace. C'est comme si ces lieux n'étaient pas reliés entre eux. Je remarque seulement à la durée du voyage qu'ils n'ont pas de frontières communes. L'espace entre les deux pays a quelque chose d'abstrait. L'endroit où je vais n'a rien à voir avec l'endroit où je suis. Et cela peut aussi être exotique. On voit donc ce lieu comme complètement étranger. Quand on prend le train, on voit comment les masses terrestres sont reliées entre elles, et les différences se révèlent alors peu à peu. Tout à coup, les panneaux sont dans une autre langue, ou bien on se réveille après une nuit dans le train et on regarde par la fenêtre sans savoir où on est. Et petit à petit, on se rend compte qu'on est maintenant deux pays plus loin. J'aime beaucoup dormir dans un train de nuit, mais je ne dors pas profondément. Je perçois que je suis en mouvement. Et c'est ainsi, je ressens alors ce paysage que je traverse. Et je me sens alors particulièrement en sécurité. C'est aussi un sentiment très agréable. Les différences sont inattendues. Ce n'est pas comme si on arrivait à destination et que tout était différent.
Dann spüre ich diese Landschaften, die ich durchquere, und ich fühle mich dann auch immer ganz besonders geborgen. Das ist auch ein ganz schönes Gefühl. Aber genau, die Unterschiede weiß man nicht, wann man sie merken wird. Die kommen dann unerwartet, anstatt jetzt bin ich am Zielort und jetzt ist alles anders.
Aber es ist auch schon. Mais il vous est arrivé que vous vous endormiez dans le train si profondément que vous vous êtes réveillé toute seule. Il y avait un tel silence. Man so still war.
Das stimmt. Ja, manchmal schlafe ich auch tief und fest.
C'est vrai. Parfois, je dors profondément. Et c'est ce qui s'est passé lorsque j'ai quitté Édimbourg en Écosse pour me rendre à Londres et que je me suis réveillée dans un silence de mort et qu'il n'y avait plus personne. Puis j'ai réalisé que nous étions sur une voie de garage dans la gare de Londres. C'était un sentiment étrange. Personne ne m'avait réveillé.
Das war ein sehr eigenartiges Gefühl. Niemand hatte mich geweckt.
Verspätungen können Zugreisen, ja, einen Strich durch die Rechnung machen oder Umwege erzwingen. Les retards peuvent gâcher les voyages en train ou obliger à des détours qui s'avèrent plus heureux. Toute seule, on peut prévoir des arrêts et planifier certaines activités. Quand on voyage avec un enfant, c'est différent. Vous avez voyagé pour la première fois en train de nuit avec votre fils, encore très jeune à l'époque, de Berlin vers la Grèce. Vous vous êtes arrêté à Belgrade. J'aimerais que vous lisiez un passage du livre Nachtzugtag. Stopp, ich würde gerne eine Passage von Ihnen gelesen bekommen.
Gerne. Unsere Körper, meiner und der meines Sohnes, sind nach unserer ersten langen Reiseetappe ausgelaugt, aber jetzt in dieser Abenddämmerung in diesem Belgrader Hof mit seinem Sperrmüll und Spielzeugtürmen leicht geworden.
Nos corps, le mien et celui de mon fils, sont épuisés après notre première longue étape de voyage. Mais maintenant, dans ce crépuscule, dans cette cour de Belgrade, avec ses tours d'encombrants et de jouets, ils sont devenus légers. Dans le studio de Bojan, nous nous écroulons sur le lit. Il dort la nuit chez des amis pour que nous puissions nous étendre chez lui. Il n'a pas de deuxième clé d'appartement, mais cela n'a pas d'importance. De toute façon, il ne ferme quasiment jamais à clé. Le lendemain, Belgrade devient pour moi encore moins exotique que la ville ne l'était déjà. J'y suis en effet avec un enfant de 5 ans qui ne s'intéresse pas du tout au cœur historique de la ville ou à d'autres curiosités supposées. Ce qui l'intéresse, ce sont les trains, bien sûr. Si ce ne sont pas des trains, au moins des rails. Le même vieux conflit. Bojan habite au sud-est et relativement loin du centre. Moi, j'y suis attirée. Je veux voir autre chose que le quartier résidentiel et le centre commercial. Mais Aiden veut des rails. Le temps de prendre le petit déjeuner et de discuter, il est déjà tard. Nous partons au pire moment de la journée. Je nous dirige vers ce qui semble être le centre-ville, mais je sais déjà que je ne dois pas me faire d'illusions. Aiden oublie les rails et commence à jeter les prunes sur la route, les regardant avec enthousiasme se faire écraser par les pneus. Nous restons là pendant des heures. « Belgrade, c'est génial !» me lance-t-il. « C'est tellement amusant !» Lorsque la route est couverte de taches de boue et qu'il n'y a presque plus de prunes dans l'herbe, nous continuons à avancer. Il fait de plus en plus chaud. Je propose de faire demi-tour. « Pas question, me répond-on. Nous n'avons pas encore trouvé de rail. » Son visage est rouge vif, sa casquette à nouveau trempée. Une vieille femme m'interpelle, me montre du doigt mon enfant, me gronde. Il s'agit probablement de mon irresponsabilité de me promener avec lui par cette chaleur. Puis nous rencontrons un chat et l'observons longuement, tournant de manière suspecte autour d'un kiosque. Veut-il voler quelque chose? Il n'y a pas d'ombre nulle part. J'atteins mes limites. Je lui fais savoir qu'il y a autre chose au monde que des rails. N'importe quoi, on continue. Nous trouvons un terrain de jeu avec de vieux appareils, mais en bon état, entouré d'immeubles d'habitation déglingués, truffés d'antennes paraboliques et de boîtiers de climatisation. Du linge pend aux fenêtres, des fissures dans le crépi. l'absence d'illusion. Combien de temps ai-je passé à chercher quelque chose à la périphérie de la ville ? Et combien de plaisir j'ai éprouvé à la périphérie de la ville, écrit Peter Waterhouse à propos des faubourgs de Vienne, dans le vendeur de miel dans le jardin du palais et l'auditorium maximum. Ce plaisir a pour lui à voir avec des ambiguïtés, avec des arrière-plans, comme il l'écrit, qui se révèlent avec tendresse dans l'insignifiant, là où ils ne sont pas noyés par des curiosités marquées de points d'exclamation. Il a raison, et Haydn a raison, c'est Belgrade. Ici, la ville est une question et non une déclaration, comme le sont la forteresse ou la cathédrale. Ici, on peut jouer avec Belgrade, même si ce jeu ne m'a pas apporté que du plaisir aujourd'hui. À un moment donné, nous faisons demi-tour d'un commun accord, faisons un détour par un café de la rue des Pruniers et découvrons un mot que nous connaissons sur le menu. Kikiriki. Nous gloussons et passons le reste de l'après-midi à manger des cacahuètes sur une balancelle d'Hollywood. Enfin à l'ombre.
Et c'était la 33e édition du podcast franco-allemand Litteramour avec Sigurd Brinkmann. Je remercie vivement Milena Kartofsky-Ayash d'avoir lu les paroles de Milai Hayet en français. Le livre de Milai Hayet vient juste de sortir en Allemagne. J'espère que l'entretien sur les avantages des voyages en train et les petites aventures en train de nuit vous a plu. Je vous salue et espère vous retrouver bientôt. D'ici là, passez de bons moments.